Bonjour, mesdames et messieurs, amis, parents, famille, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices.
Chats, chiens, animaux de compagnie.
Poissons rouges, lézards, reptiles et autres créatures à sang chaud, froid et autres. Bienvenue à ce nouvel épisode de Ciné Brunch.
Je me reconnais de moins en moins dans cette émission-là.
Louis Laramé, je suis accompagné de mes co-animateurs, Jim Boulay, qui se reconnaît de moins en moins. Il y en a le chapeau de travers et Mélina Lopez-Nadeau.
Bien sûr, bonjour.
Bonjour à tous et à toutes. D'ailleurs, nous sommes ce samedi, cette belle journée, en journée de présentation de la nouvelle programmation estivale de CFLX.
Absolument.
Il y a des chances non négligeables que vous nous entendiez plus tard cet après-midi.
Ou estivale ou estrivale?
On va demander, c'est vraiment dommage, j'avais beaucoup d'affaires à planifier, mais malheureusement, Mélina ne pourra pas
être avec nous
pour le reste de l'épisode.
La censure quand tu nous tiens.
Oui, on tient pas mal dans ce cas-ci.
Voilà.
Jim, qu'as-tu vu, entendu, fait cette semaine?
Ah, écoute, beaucoup de déceptions cinématographiques cette semaine, mais vous savez, la semaine dernière, je pense, ou la semaine d'avant, j'ai oublié, je suis venu laver mon linge sale à la radio et je me suis dit, tiens, c'est une bonne habitude à prendre. Alors, j'ai décidé cette semaine, encore une fois, d'amener mes frustrations ici. Alors, voilà, vous savez que le monde du cinéma français, que j'affectionne particulièrement, est peuplé de grosses têtes qui aiment bien faire des scandales ou annoncer des choses publiquement pour se donner une tribune de chiolage et faire avorter des productions. Donc, je pense entre autres à l'acteur Alain Delon qui devait jouer dans le film Monsieur Carlson, mais qui avait en 2009 fait un croche-pied à Alexandre Astier, qui est aussi le créateur de la série Kaamelott, en disant qu'il ne voulait pas travailler avec un réalisateur-acteur, malgré qu'on a la preuve que, par exemple, Danny Boone le fait très bien et qu'Alexandre Astier le faisait très bien dans la série Kaamelott.
Alain Jabba le fait à l'occasion très bien.
Effectivement.
Il y a plusieurs gens qui le font.
Plusieurs gens le font et ça marche relativement bien, j'ai envie de dire. Ceux qui marchent pas, on les connaît pas. Et Mais là, je suis un petit peu quelques mois en retard sur les nouvelles, mais ça vient de se reproduire il y a 2 mois, en fait, et je viens d'en prendre conscience aujourd'hui. Il y a quelques mois, sans que je m'en rende compte, parce que vous savez que je suis un fan fini d'OSS 117 et que je connais la plupart des dialogues et des répliques par cœur, eh bien, j'étais en jubilation quand Jean Dujardin avait annoncé le tournage d'un troisième film OSS 117 au début de l'année. Eh bien là, Michel Hazanavicius, le réalisateur de La classe américaine, des deux films OSS 117 et du film The Artist, a annoncé qu'il ne réaliserait pas le troisième film parce qu'il n'aime pas le scénario, imaginez-vous donc. Il aurait aimé que Jean Dujardin incarne cette fois dans le nouvel opus un Hubert bonisseur de la batte, décadent et à la retraite et bedonnant et tout le kit. Alors voilà, pourquoi garder les choses pour soi et en discuter pour trouver des solutions quand on peut ridiculiser son milieu et nuire à ses projets? Bref, le film sortira-t-il ou sortira-t-il pas? C'est le secret de la météo, on verra.
Le secret de la météo, waouh!
C'est toujours mieux que le secret de la caramilk. Mmh. C'est un moule, mesdames et messieurs, c'est un moule.
Voilà.
Mélina,
je crois qu'on dit une
semaine?
Moule ou une huître. Donc oui, Louis, cette semaine, en fait, moi, j'ai envie de vous parler d'une grosse nouvelle qui est sortie un peu plus tôt cette semaine, mardi le 8 mai. Donc, je parle bien sûr de l'annonce de Radio-Canada, V Media, Bell, TV5 et l'ONF qui s'unissent tous pour enfin faire ce qu'on réclame depuis plusieurs années, c'est-à-dire nous présenter tout le contenu québécois sur une seule plateforme et arrêter de nous demander de payer alors sur plusieurs plateformes. Donc, c'est ce qu'ils ont annoncé hier. Donc, à partir de hier, tout le contenu est disponible sur tout.tv extra, tout le contenu on s'entend. Donc, les postes V, Canal V, Canal D, Z, VRAC, TV5, UniTV et l'ONF. Donc, ça sera plusieurs heures de contenu qui vont venir enrichir le catalogue de tout.tv extra. Donc,
toujours du sur-demande, évidemment.
Exactement. Et ça fait plusieurs années, en fait, qu'on se demande pourquoi les diffuseurs ne se regroupent pas ensemble sous une seule plateforme pour diffuser leur contenu avec tous les Netflix de ce monde et tout. Donc, c'est une bonne nouvelle, selon moi. Peut-être que selon certaines autres personnes, ce ne l'est moins.
Moi aussi, je suis pour les nouvelles en retard aujourd'hui, mais c'est parce que je l'ai appris suite à une entrevue avec Micheline Langteau. Micheline Langteau, cette charmante comédienne, directrice, réalisatrice québécoise, est à la tête d'une organisation et la fondatrice du PCCQ, le Prix collégial du cinéma québécois, qui est une organisation qui, depuis 7 ans, fait écouter des films dans plus de 50 institutions participantes du nouveau collégial où des étudiants et étudiantes, suite à une sélection d'experts, choisissent entre 5 films quel sera le meilleur film vu par les étudiants collégiales. L'événement avait lieu cette année le 11 avril 2018.
Oui, ça fait à peu près un mois, Louis.
À peu près un mois. C'est ça. Donc, c'est 5 films choisis par les experts. Cette année, les films, c'était La résurrection d'Hassan par Carlo Guillermo Proto, Le problème d'infiltration de Robert Morin, Les affamés de Robin Aubert, Mes nuits feront écho de Sophie Goyette, ainsi que Tadoussac de Martin Laroche. Les gagnants ont été dévoilés le 11 avril dernier. Le prix collégial du cinéma québécois a été décerné à nul autre que le problème d'infiltration de Romère Morin. Les étudiants ont signalé à plusieurs reprises leur grande admiration pour.
Changer de professeur au collégial, s'il vous plaît. Amenez-leur des meilleurs profs.
Le jeu de M. Bégin, le jeu de caméra qui est absolument extraordinaire, l'ambiance tendue et prenante durant tout le film.
Wow. Non, mais écoute, les autres que tu as nommés...
C'est vrai.
Je comprends un peu dans un sens, mais...
Les affamés étaient excellents. Moi, je refuse d'entendre vos critiques mal dirigées.
C'est la faute de la réforme. Tout sur la réforme de l'éducation.
Avant que Mélina s'emporte trop loin, je pense que je vais finir l'introduction maintenant. D'ailleurs, Mélina, cette semaine, tu as été voir un film Jalouse.
Oui, c'est le nom du film, en fait.
Oui, c'est ça. Mélina, tu n'es pas jalouse, ou à tout le moins, on s'en est pas parlé.
Je crois pas à la jalousie, en fait, mais ça, c'est un autre débat pour
une... Tu n'y crois pas, toi, tu penses que ça n'existe pas, c'est comme les fantômes puis la main invisible du marché?
Non, je crois plutôt qu'il est question d'insécurité qui sont pas exprimées parce qu'on a une déficience en la gestion de nos émotions...
Philosophie Brunch à écouter dans vos transistors dès 2024.
Vous viendrez jaser avec moi de la jalousie et des insécurités. Bref, oui, le film Jalouse, c'est un film français, en fait, et je vais vous lire le petit résumé. Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage. Entre comédie grinçante et suspense psychologique, la bascule inattendue d'une femme. Donc on va aller tout de suite écouter la bande-annonce.
Tout le monde m'a dit à quel point ma fille était belle et merveilleuse.
C'est fou comme elle danse bien.
Les autres n'étaient pas terribles, hein, Marie.
J'ai des sautes d'humeur. Au travail, il y a une espèce de petite conne arriviste.
Elle en fait des tonnes. Ça me rend dingue, tout le monde est baba devant elle parce qu'elle vient de l'édition. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'édition, franchement?
Tu n'as pas à commenter mes décisions.
Elle est toujours comme ça?
J'ai l'impression que le monde m'est devenu hostile. Tout le monde est dupe.
Pardon de vous couper, Madame Pêcheux. Je suis généraliste.
Oui, d'accord, mais bon.
Donc voilà la bande-annonce. Donc l'actrice principale, c'est Karine Viard, qui est une actrice assez connue en France. Mais... intéressant, on n'a pas entendu sa voix dans la bande-annonce, mais il y a notre Anne Dorval québécoise nationale de ce monde qui incarne le rôle.
En as-tu d'autres, là? Notre Anne Dorval nationale de ce monde?
Bonjour,
favorite, la meilleure.
Mais effectivement, très douée pour son accent parisien. En tout cas, peut-être que des vrais Parisiens vont la démasquer, mais moi, j'y ai cru.
Certains l'ont pris pour Anne Mirabel, mais c'est une autre histoire. Normal.
Cette émission-là s'en va de moins en moins dans des endroits que j'apprécie. Je pense que...
J'adore.
D'ici la fin de l'année, je pense que je vais enregistrer dans un studio à part, dans une autre ville.
C'est excellent. Ça m'a pris du temps à la comprendre, mais c'est excellent.
C'est bon. Vieux.
Donc, Anne Dorval, elle joue la meilleure amie, en fait, de Nathalie. Et effectivement, c'est ça, comme je disais, son accent parisien, selon mes oreilles, est très bien. On y croit. C'est une actrice très douée, d'ailleurs, qui avait déjà séduit les Français, qui l'ont connue aussi à cause de Xavier Dolan dans Mommy. Et, et on a aussi, donc, comme je vous disais, Karine Viard, Dara Tombroff, Thibaut de Montalembert, Bruno Todestini et Anaïs Desmoustiers. C'est réalisé par...
Je pense que Mélina n'est pas due pour virer italienne cette semaine.
Non, j'ai remis ça la semaine prochaine, en fait.
Bon.
Bon, et c'est réalisé par David Foynkinos et Stéphane Foynkinos. Donc, ce film-là, je suis allée le voir avec Jim, en fait. On est allés le voir ensemble, on a vu plusieurs films français cette semaine.
Je sais pas pourquoi Louis veut rarement venir voir les films français avec nous.
J'aime le plaisir.
Ah oui, c'est ça.
Mais ce film-là était intéressant. Comme on disait, c'est quand même drôle à certaines reprises, mais on réussit quand même à plonger dans la détresse psychologique d'une femme au bord de la cinquantaine, proche de la ménopause, et à exprimer ça de façon assez intéressante. Il y a certaines lacunes, si je pourrais dire, dans le scénario. Il y a des petits trucs qui m'ont dérangée. Je trouve que des fois, on n'explique pas assez qu'est-ce qui se passe. Mais, somme toute, c'est bien fait. C'est intéressant comme concept à explorer parce qu'on se rend quand même jusqu'à un point assez, assez intense de sa jalousie. Sans tomber non plus dans le film, comme le film que je suis allée voir la semaine dernière, Jusqu'à la garde, qui là tombait vraiment dans le dramatique. Là, on y va moins, donc c'est quand même assez léger. Mais ça peut induire quand même une réflexion qui est intéressante. J'ai quand même aimé ce film-là. Je sais pas toi, Jim.
Oui, ben écoute, je suis un peu mitigé sur ce film-là. C'est, je dirais, ben premièrement, j'ai pas trouvé ça drôle. J'ai trouvé que si c'est classé comme une comédie, c'est probablement une erreur, à mon avis, ou sinon très mal dirigé. Mais dans tous les cas, c'est on va pas voir ça comme une comédie, je pense. Oui, effectivement, il y a des éléments qui peuvent faire sourire. Mais oui, je trouve qu'il y a quand même de quoi d'intéressant dans le fait de la descente aux enfers de la psychologie du personnage qui s'enfonce dans son complexe d'infériorité. On ne sait pas trop pourquoi. En tout cas, on fait référence à la ménopause là-dedans. Mm-hmm. Mais bon, ça me semble un peu faible pour l'intensité du truc. Sinon, je trouve que c'est plus... Je vois ça plus comme une étude de comportement là, comme film. C'est plus qu'un film. Là.
Oui, parce que effectivement, c'est pas non plus... c'est pas à mourir de rire non plus.
Non, vraiment pas.
Non, c'est ça, mais...
C'est un peu à mourir d'ennui.
Peut-être pas. Non, quand même pas. Mais il y a des bouts assez rough quand même. C'est pas... écoute, c'est rien à voir avec... les films qu'on a
revus récemment,
oui, c'est ça. Mais non, je sais pas. Je pourrais même pas vraiment donner une note pour ce film-là.
Moi
je
non
sais
plus,
pas.
En fait.
Je sais pas. C'est bizarre.
Mais moi, j'irais quand même avec un 6 parce que selon moi, ça passe, mais ça réussit pas à s'identifier à un genre cinématographique précis. Et c'est un peu ça qui. Je pense créer une confusion parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est pas si drôle que ça.
Ouais, tu sais, ça réussit pas, comme tu dis, à s'attribuer un genre, c'est mais ça. En même temps, ça réussit pas à réinventer quelque chose non plus.
Fait que mais c'est un sujet qui est pas souvent étudié au cinéma de cette façon-là.
C'est bon, la prémisse me fait quand même penser à moi, Belle et Jolie, que t'as vu là quelques semaines. L'idée d'une transformation soudaine, d'un changement d'attitude, non, pas à ce point-là.
Pas vraiment. On pourrait effectivement, je vois pourquoi on pourrait faire le parallèle, mais non, on n'est pas dans Moi, Belle et Jolie. Amy Schumer n'a pas confiance en elle, il arrive un accident et tout d'un coup, elle a super confiance en elle. Là, on est un peu dans une descente vers les profondeurs de la jalousie de Nathalie, mais il n'y a pas tant d'explications. C'est graduel, on comprend pas tant ce qui motive... On comprend un peu ce qui motive ses actions, clairement, c'est la jalousie, mais...
Pas assez,
et il y a pas nécessairement de conséquences non plus à ce qu'elle fait. Je veux dire, les gens se retournent un peu contre elle, mais c'est un peu accepté. C'est comme si on banalisait aussi un peu ce comportement-là en disant, bon, ben c'est normal, c'est la ménopause, c'est ta fille qui est... je sais pas.
C'est, en tout cas, c'est les hormones.
Si la ménopause peut faire ça, on aurait des sérieux problèmes sociaux. Je pense que c'est un petit peu exagéré. Là, la cause n'a pas vraiment de sens, mais je dois manifester l'incroyable performance des acteurs dans ce film-là.
Ah oui, à ce point-là?
C'est très, très, très bon. Très bon à ce niveau-là. Rien à dire. Même les jeunes acteurs sont très bons. C'est bien.
Donc, un 6 sur 10.
Un 6 sur 10 pour moi, oui.
Jim, t'as-tu...
Je sais pas. Peut-être 6.5, de quoi comme ça, mais... C'est pas un mauvais film, mais allez pas voir ça pour rire, parce que franchement, ça va être raté. Je vous garantis que c'est raté.
En tout cas, de mes écoutes de films cette semaine, La petite famille a fait beaucoup plus rire le public que Jalouse. Donc, comme tu disais, je pense que si on voit ça comme une étude d'un comportement, ça peut être intéressant, mais sans plus.
Voilà.
Merci beaucoup.
Louis, tu étais voir un film?
J'ai été voir des films.
Oui, c'est vrai.
J'ai beaucoup de choses cette semaine, mais j'ai été au cinéma pour voir You Were Never Really There. Tu n'as jamais vraiment été là.
Et toi, y étais-tu?
Oui, trop en fait. J'étais vraiment beaucoup trop. C'est un film réalisé par Lynn Ramsey qu'on a connu pour Ratcatcher. C'est une mise en scène du roman de Jonathan Ames du même titre. Sa mère vedette, Joaquin Phoenix, Judith Roberts et Ekaterina Samsonov, qui joue une jeune enfant qui est vraiment très crédible. Là, je vais vous lire la description, on va aller à la bande-annonce, puis après, je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. Un homme hanté par son passé est devenu tueur à gages. S'il est capable de faire couler le sang avec son marteau, Joe redevient un fils aimant et attentif auprès de sa mère. Solitaire, il arpente New York pour mieux oublier ses démons. Un lucratif contrat l'amène sur la piste de Nina, la jeune fille d'un sénateur qui a été enlevée et est retenue par un réseau de prostitution. L'homme bourru et barbu parvient à retrouver le lieu où elle est séquestrée et il possède la force pour la libérer. Mais dès qu'il met son plan à exécution, une spirale de violence s'enflamme, n'épargnant rien ni personne. Bande annonce pour nous mettre dans l'ambiance. Close your eyes.
I'm gonna ask you some questions.
How many are there?
One guy inside the front door, second guy on the top floor.
After the tone, please leave a message.
It's done.
Man called. He wants to see you right away.
State Senator Albert Vato. His teenage daughter's missing.
What's the lead?
You got an anonymous text with an address.
I've heard of these places. They said you were brutal.
I can be.
I want you to hurt them.
Et donc, c'est pas vrai tout ça.
Ben, la bande-annonce est vraie. Tant en temps qu'on se concentre pas sur ce qui est dit, mais comment c'est dit. C'est un film qui est énormément dans les petits détails. Le début est un peu sec. En fait, est représenté dans le film où est-ce qu'on voit une scène où ce qu'on imagine être une scène de violence quand même intense, mais entièrement, qui arrive entièrement hors cadre. La caméra est comme figée sur un coin de lit avec un collier d'une jeune femme, puis on voit juste les mains de Joe ramasser un marteau. On entend des coups, on entend un hurlement, on entend des halètements.
Non, c'est...
Et c'est tout. C'est un film tout en petits détails, tout en sonorité. Là. La bande-annonce le rendait bien, je trouve, à ce niveau-là. Le son des jujubes qui prend, le son, les quelques cordes qui sont tirées sur le violoncelle dans la musique. C'est tout en petits détails. Et bien que ce soit vendu comme un film d'action-ish, on s'entend que Joaquin Phoenix a la présence sur scène de faire ça, c'est entièrement un film cérébral.
Okay.
En ce sens que c'est un film qui se passe, c'est 1h45 où on explore la psyché d'un homme hanté par ses démons sur une quête de vengeance. Je veux pas rien divulgâcher, fait que je révélerai pas pourquoi il est sur une quête de vengeance, mais de savoir que c'est pas un film d'action traditionnel. C'est pas un film d'action traditionnel parce qu'il y a pas des scènes de violence classiques. Il y a pas des scènes de combat classiques. Il y a des scènes de combat, mais elles sont filmées à la manière d'un film d'auteur, beaucoup plus qu'à la manière d'un film d'action. Beaucoup d'action hors champ, beaucoup de lourdeur. Le personnage de Joaquin Phoenix, Joe, est très... le terme anglais est hulking, très lourd, pesant dans ses mouvements. Son arme favorite est le marteau, puis on sent toute la violence qui déchaîne avec ça. Mais en même temps, c'est un film très humain, parce qu'on le voit s'occuper de sa mère, on le voit son dealer s'occuper de son jeune fils. Tout ça est autour du sénateur Vito qui s'occupe de sa jeune fille. Je suis sorti de là en ayant mal à ma vie. Parce que il y a plusieurs scènes très lourdes, on sent c'est vraiment dur, c'est pas parfait. Il y a une couple de problèmes avec le film qui m'ont déçu. Il y a une légère faiblesse au niveau du scénario, ça aurait pu être plus étoffé, quoique je suis tout seul à penser ça parce que le festival de Cannes a offert le meilleur scénario.
Ah oui, carrément.
C'est pas dans le scénario que le pacing qui est le rythme qui est pas extraordinairement qui parfois pourrait être un peu mieux ficelé. C'est peut-être voulu, il y a certains moments que tu sens qu'ils vont volontairement ralentir l'action pour te permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. Esthétiquement, c'est vraiment très beau. C'est vraiment très intime comme film. Il y a beaucoup de scènes dans des endroits renfermés, il y a beaucoup de scènes où on est très près des gens, la caméra suit vraiment le visage, les expressions, les émotions. Un travail extraordinaire au niveau de la direction photo. Mais c'est pas un film d'action. Honnêtement, j'ai vu la bande-annonce à la base. J'étais persuadé que je m'en allais voir un autre justicier dans la ville.
Ouais, moi, ça me faisait penser au film de Bruce Willis.
C'est ça, exactement. Mais pas du tout. Okay. C'est beaucoup plus proche d'un La mise à mort du cerf sacré.
Ah oui,
comme
carrément.
Type de film que vraiment de justicier dans la ville. Vraiment meilleur aussi, là. Je le recommande, mais à lors des belles journées. Pas quand vous êtes malheureux. Parce qu'il y a vraiment des lourdeurs, là. Il y a vraiment des moments où j'ai été. Je me sentais pas très bien.
Ouais, d'accord.
Mettons que j'étais dans la salle de cinéma seul, parce que j'ai été voir à des heures de scrap.
Ouais.
Et j'aurais aimé avoir quelqu'un qui prend de la main pendant ce film-là. Oui. Ça m'aurait probablement fait du bien.
Ouais. Heureusement, t'avais ton popcorn pour.
Il en est pas resté assez longtemps. Ah. D'ailleurs, je dois saluer la performance extraordinaire de Joaquin Phoenix. J'adore déjà cet acteur-là depuis longtemps, mais dans ce film-là, il est absolument majestueux. On le sent faible, on le sent fort, on le sent exactement là où il doit être au bon moment. Un solide 8.8 sur 10 de la part de Louis, parce que bien que très bon, bien que très émotif, comme j'ai dit, le rythme aurait pu être un petit peu meilleur. J'aurais aimé un petit peu plus, je sais pas, peut-être une conclusion, je sais pas, il manquait peut-être un petit quelque chose.
Ok, mais quand même, 8.8 c'est bon.
C'est très bon, là. Ouais. C'est, je le recommande vraiment, juste heureux avant de le regarder. Ouais, c'est pas ça. Le regarder sur une journée dépressive.
Bon, c'est noté. Ben, espérons qu'il fasse soleil plus souvent, puis voilà.
Oui. Pour le recommander, il est encore au cinéma pour quelques semaines. D'ailleurs, si vous voulez aller le voir.
Mais merci beaucoup, Louis.
Merci.
C'est le moment des sorties cinéma. Je suis sorti avec les
chums. La semaine prochaine, on a une couple d'affaires qui sortent quand même. Là, c'est une bonne semaine. Entre autres, Un drôle de mariage, version originale de Another Kind of Wedding, comédie dramatique canadienne réalisée par Pat Kelly, mettant en vedette Caitlin Turner, Jessica Parry, Jessica Parker Kennedy, Kevin Zegers et Wallace Shawn. Une famille divisée est obligée de confronter ce qui les a amenés à ne plus se fréquenter lors du mariage du fils aîné. J'ai rien entendu parler de ce film-là, mais le synopsis me semble quand même intéressant.
Oui.
Peut-être à voir. Numéro 1, comédie dramatique française, réalisée par Tony Marshall, mettant en vedette Emmanuel DeVos, Suzanne Clément, Richard Berry, Samy Frey et Benjamin Biolay. Emmanuel Blanchet est une ingénieure brillante et volontaire qui a gravi les échelons de son entreprise, le géant français de l'énergie, jusqu'au comité exécutif. Un jour, un réseau de femmes d'influence lui propose de l'aider à prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. Elle serait la première femme à occuper une telle fonction. Mais dans des sphères encore largement dominées par les hommes, les obstacles d'ordre professionnel et intime se multiplient. La conquête s'annonçait exaltante, mais c'est d'une guerre qu'il s'agit. Ça, j'ai vu la bande-annonce et ça a l'air intéressant. Je veux dire.
Drame corporatif, je pense.
Drame corporatif, ça a l'air très campé dans le monde exécutif, mais ça a l'air le fun comme thème, comme idée derrière ça. Un que j'ai vraiment hâte d'aller voir, c'est How to Talk to Girls at Parties. C'est un drame britannique réalisé par John Cameron Mitchell, mettant en vedette Elle Fanning, Nicole Kidman, Ruth Wilson et Alex Sharp. 1977. Trois jeunes anglais amateurs de musique punk, alors en pleine émergence, croisent dans une soirée des créatures aussi sublimes qu'étranges. L'un d'eux, le timide N, s'éprend de la nymphette Zan. Celle-ci appartient à une colonie d'extraterrestres en visite sur Terre pour étudier les mœurs humaines et s'y nourrir, menée par Queen Bodicea. Zan est fasciné par l'esthétique punk épousée par N et s'enfuit avec lui pour une escapade londonienne haute en rebondissements terriens et cosmiques.
Ça peut être intéressant, mais je
suis
pas
laisse,
sûr.
Je vous laisse.
Je suis pas sûr.
Un autre britannique, Disobedience, drame romantique cette fois-ci, réalisé par Sébastien Léliot avec Rachel McAdams, Rachel Weisz et Alessandro Nivola. Une jeune femme juive orthodoxe retourne chez elle après la mort de son père, mais sa réapparition provoque quelques tensions au sein de la communauté lorsqu'elle avoue à sa meilleure amie les sentiments qu'elle éprouve à son égard. Oh. Ouais. Deadpool 2, 18 mai. Deadpool 2, réalisé par David Leitch, mettant en vedette Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Josh Brolin, TJ Miller, Zazie Beetz. Il n'y a pas de sortie de presse à ce niveau-là. Ils n'ont pas sorti de description.
Pour vrai?
Oui, sur la plupart des sites, c'est la suite de Deadpool. Il a fallu que j'aille sur Wikipédia pour trouver que Deadpool forme une équipe de mutants appelée X-Force pour protéger un jeune mutant d'un soldat qui voyage dans le temps. OK, bon. Mais en même temps...
As-tu vu la bande-annonce?
Ben oui, j'ai vu toutes les bandes-annonces.
La version où il décide de prendre le contrôle de la bande-annonce puis faire ça avec des petits bonhommes.
Parce qu'il n'y a pas d'effet spéciaux de fun parce qu'il va être encore vert. Oui.
Je trouve ça très drôle.
Oui, non. C'est de toute beauté. Je vais être probablement là à l'avant-première si j'ai la chance. Oui. Ce film-là me semble extraordinaire. Mais en même temps, c'est une comédie. On ne sait jamais comment ça peut virer.
Absolument.
Club de lecture, version originale de Book Club, comédie américaine réalisée par Bill Holderman, mettant en vedette Diane Keaton, Jan Fonda, Candice Bergen et Andy Garcia. Quatre amies de toujours se retrouvent comme chaque semaine au sein de leur club de lecture, lorsqu'une d'entre elles propose de découvrir 50 nuances de grey. Elles ont réussi leur vie et elles comptent bien continuer à en profiter et vivre de nouvelles expériences. Célibataire depuis peu, Diane va connaître le coup de foudre. La toujours séduisante Viviane retrouve un amour passé. Sharon découvre les sites de rencontres sur Internet et Carole essaie de redonner du piment à son couple. En ravivant la flamme ou en vivant une nouvelle aventure amoureuse, chacune d'elles va écrire le nouveau chapitre de sa vie. Peut-être le meilleur. Et le dernier qui est le film que Jim va aller voir, Chien sous enquête, version originale de Shondas, comédie familiale américaine et britannique, réalisée par Raja Gosnell, mettant en vedette Natasha Lyonne et Will Arnett. Chien sous enquête est une comédie familiale qui raconte l'histoire d'un improbable duo formé de détectives et de son partenaire à quatre pattes.
Tu sais, quelque chose qui n'a jamais été fait.
La plus grande compétition canine au monde pour résoudre leur enquête. Mmh. Ça finit comme Bad Boy rencontre Beethoven.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est intéressant parce que de plus en plus de services de police, et on parle de celui de Sherbrooke, ont des chiens canins pour les aider à accomplir différentes tâches.
Je m'excuse, des chiens canins? Moi, je connais pas beaucoup de chiens félins.
Ouais, c'est plus courant.
Ou de chiens bovins. Là. Quoique j'ai vu des chiens assez gros pour être une vache, mais ça, les Saint-Bernard, c'est en Suisse. C'est ça pour les sorties cette semaine. Donc, en cette deuxième partie d'émission, on va se parler de Origami, un film québécois que nous avons tous vu ensemble, réalisé par Patrick Demers. Mais avant ça, Jim va nous parler de la comment?
La ch'tite. La ch'tite famille.
Je refuse.
Mais oui, donc oui. Effectivement, en fait, on l'attendait, je parle pour moi et non pas pour toi, Louis, depuis un certain temps. La Ch'tite Famille, la dernière comédie de Danny Boone, donc comédie française, c'est Danny Boone qui a produit, écrit et réalisé le film, on est habitué. C'est avec, évidemment, Danny Boone comme personnage principal, suivi de Laurence Arnay, Lynn Renault, la dame qui est maintenant, comment on dit, Nina Génère, on est dans les 90.
Elle est vieille.
Elle est âgée. Valérie Bonneton, qu'on a vu récemment dans le film Garde alternée. Elle a joué dans plusieurs films en compagnie de Danny Boone, d'ailleurs. On écoute la bande-annonce.
Vous allez d'où, comme ça?
Je sais pas tes oignons.
Vous allez vers l'autre truc à Paris, hein?
D'ailleurs, il n'était pas du tout prévu qu'ils se revoient.
Madame la ministre, Manchester, bravo.
Ouh, tata!
Maman.
Hein?
Il y a maman.
Maman!
Oh, je suis content d'être vivant. Hein?
Oh, vous êtes là, vous aussi.
Oh, mon amour. Oh, tu m'as tellement manqué.
Ah non. C'est horrible, papa. Il est totalement amnésique et il a 17 ans d'âge mental.
Hein? Qu'est-ce que c'est?
Un lièvre.
Non, vre. Vre. Vre.
Une taube.
Gle.
Je s'en fous de la couleur. C'est le nom qu'il veut.
Et voilà.
Et voilà.
Ça sonne enfantin.
Ben écoute, t'as vu Bienvenue chez les Ch'tis, j'imagine?
Non.
En France, il y a plusieurs régions. Et une région plus au nord, qui s'appelle le Nord-Pas-de-Calais, est reconnue pour avoir des différences socioculturelles importantes, notamment la langue, qui est assez différente. En fait, le patois est assez différent. Voilà, donc on parle en ch'timi, et ch'timi, il parle comme ça, là. Puis c'est donc...
L'équivalent québécois des îles de la Madeleine, finalement.
Oui, ou de la Beauce, ou de...
Non, ouais, non, mais ouais. C'est parce que les îles de la Madeleine, c'est incompréhensible pour un non-madelino.
Bon, c'est un peu l'équivalent, si on veut. Mais c'est aussi un territoire qui disons, ça fait peur aux gens de par le froid extrême qui... Je pense qu'on
un peu froid extrême pas si froid là-bas.
Non, je sais, mais c'est...
Parle-moi, là.
Non, mais pour quelqu'un qui habite dans le sud de la France, c'est...
Le sud de la France, pour qu'on soit clair, c'est sa Méditerranée.
Ben oui.
Tu sais, la Côte d'Azur serait connue comme étant un des endroits les plus paradisiaques pour prendre des vacances.
Ben, c'est ça.
Tout, comparativement à ça, est moins le fun.
Ben, en effet. Mais en tout cas, bref, l'histoire de Bienvenue chez les Ch'tis, qui est le premier film du sujet, ben, c'était l'histoire d'un cadre qui travaille pour la Poste dans le sud de la France et qui est muté parce qu'il a fait une tentative de corruption pour avoir un poste justement sur le bord de la mer. Il a été muté, disons, envoyé chez les Ch'tis comme directeur de poste pour 2 ou 3 ans. Et donc l'histoire est là, lui s'attend au pire, il arrive là-bas, finalement c'est des gens super accueillants, c'est merveilleux, tout le monde est content, mais sa femme pense qu'il vit dans la grosse misère, dans le froid extrême, puis qu'il est avec des barbares. Fait que là, toute une aventure qui arrive avec ça, il doit monter un coup, sa femme veut venir le voir parce qu'elle a pitié de lui. Il veut, en tout cas, finalement, il invente que c'est une gang de barbares. En tout cas, c'est un peu ça l'histoire. C'est très beau, c'est très touchant.
C'est très drôle.
C'est très drôle. C'est un excellent film, mais cette fois-ci... Voilà. Donc, pour revenir à La Ch'tite Famille maintenant, donc, qui est le film actuellement en salle. Donc, non, ce n'est pas la suite de Bienvenue chez les Ch'tis. Malgré que ça se passe, donc, plusieurs des Ch'tis du premier film y sont présents. Ils jouent un rôle un peu différent. Ils sont dans la même famille cette fois. À part Lynn Renault, qui est la mère du personnage de Danny Boone, qui conserve le même rôle. Donc, sa mère est aussi sa mère dans la version Ch'tite Famille. L'histoire aussi est totalement différente du premier film. Danny Boone interprète cette fois-ci le rôle de Valentin D, donc un populaire designer de meubles parisien, reconnu pour être orphelin et sans famille. Le seul problème, il n'est ni parisien, ni orphelin, ni sans famille. En fait, il vient du Nord-Pas-de-Calais, donc d'une famille Ch'ti, qu'il a renié pour être populaire et avoir du succès à Paris. Et sa famille lui fait une visite surprise lors d'une exposition prestigieuse en compagnie de la ministre et de tout ça. Donc, par la suite, il va avoir un accident, il va perdre la mémoire et va revenir, si on veut, à l'époque de ses 17 ans. Et il va récupérer surtout son accent ch'ti, donc qu'il avait évidemment volontairement perdu. En gros, c'est ça le film. Je trouve que la bande-annonce a déformé un petit peu l'ordre des choses. Il y a eu d'ailleurs plusieurs versions de bande-annonce. Il y en a avec narration, sans narration. Il y a eu 2 ou 3 formats qui ont été diffusés au Québec. Même en salle, ici, on a changé la version parce que la version était un peu trompeuse. Bref, je déteste ces choses-là, mais c'est la vie. Maintenant, on revient au film. Si vous avez adoré Bienvenue chez les Ch'tis, comme votre humble moi-même, vous avez certainement eu de grosses attentes pour ce film. Eh bien, c'est avec beaucoup d'assurance et sur ce ton posé que je vous annonce que la ch'tite famille, ça marche pas.
Ah, oh, ben là, je suis pas d'accord.
Malheureusement. Alors, ben, t'as le droit de pas être d'accord, hein. Comme nous dit le proverbe, tout le monde a droit à mon opinion. Mais attendez, vous aimerez peut-être le film quand même parce qu'il y a une énorme fosse d'appréciation entre les critiques et les spectateurs. Mais avant de vous parler de ça, je vais vous dire ce qui marche et ce qui marche pas selon moi dans ce film-là. Premièrement, au niveau des acteurs, c'est très correct. Là, on réinvente pas le métier de comédien, évidemment. Mais ça marche quand même assez bien. C'est éclaté, exagéré, naïf, comme dans ce genre de film-là. Ça passe bien à ce niveau-là. Mais tu vois, en plus, Laurence Arnay, qui joue la femme de Danny Boone, est totalement radieuse et attachante. Franchement, j'aime beaucoup le duo, ça marche plutôt bien. Au niveau du récit, par contre, c'est un petit peu décousu. Bienvenue chez les Ch'tis était aussi un peu décousu et ça marchait quand même. Je pense que c'est un peu le style de Danny Boone de faire un premier acte un peu long, un peu drabe. Je vais faire une petite parenthèse d'ailleurs avec ça. Je vais faire un parallèle avec le film Garde alternée d'Alexandra Leclerc. Donc évidemment,
Film que tout le monde. Tout le monde a vu.
Non, mais j'en ai parlé il y a quelques semaines. En fait, il y a quelques mois.
Oui, ben moi, je l'avais critiqué, en fait.
Oui, c'est toi qui en as parlé,
c'est
en fait. Moi, c'est ça.
On est allé le voir ensemble.
Ah, c'est pour ça. Mais c'est ça, Garde alternée, qui était, vous vous souvenez, le film de Jean qui se...
Moi, je m'en souviens pas, faut que tu me l'expliques.
Ben, c'est l'histoire de Jean qui, sa femme découvre qu'il a une maîtresse. Finalement, elle réfléchit à ça, puis elle se dit, bon, ben si on prend Jean en garde alternée, ça va être plus facile pour les enfants, puis tout ça, plutôt que de m'en débarrasser directement. Et c'est ça qui se passe au niveau du film. Donc, je vais faire... Cette parenthèse-là est assez simple. Donc, les deux films, Garde alternée et... La ch'tite famille, c'est deux films qui ont le même niveau d'humour, la même approche de l'exagération. C'est très français dans le style. C'est deux films de divertissement qui ne visent pas grand-chose d'autre. Dans Garde alternée, c'est une histoire d'adultère qui démarre l'histoire. Donc, la première scène du film, c'est la femme de Jean qui réalise que son mari la trompe. Paf, ça commence comme ça directement. Dans la ch'tite famille, il se passe un bon et long moment avant que la fameuse rencontre se fasse avec ses parents. On prend bien le temps de placer les personnages, de nous faire des jokes par-ci par-là, tellement que quand la rencontre a lieu, ça fait déjà un moment qu'on l'attend pour cette rencontre-là et qu'on construit ça. Et finalement, c'est pas si terrible que ça comme situation. Donc, il y a une petite déception qui arrive là. Puis là, l'accident arrive pas tout de suite. On attend encore. Et quand enfin l'accident arrive, là, le film commence. Donc, c'est vraiment un style un peu plus classique de Danny Boone, mais c'est correct. C'est juste que le rythme a vraiment manqué de dynamisme à mon goût. Après ça, au niveau de l'humour, ça bloque aussi, si vous voulez mon avis. Donc, c'est très premier degré, évidemment, mais surtout, ça a été long avant que je rie vraiment dans le film, alors qu'on nous garoche littéralement des salves de gags et de situations loufoques qui font pas rire, comme si on essayait de nous noyer dans des expressions ch'tis ou dans le clash culturel des deux régions, mais tout ça a déjà été fait avant dans l'autre film. Donc, bref, ce film-là essaye peut-être trop d'être drôle, et c'est son plus gros défaut. Si on avait pris l'accident et qu'on avait fait un film un peu comme Les Intouchables avec ça, ça aurait été certainement plus intéressant à voir. J'aurais vraiment aimé qu'on nous montre plus sa femme qui s'adapte à la situation de son mari, qui essaie d'apprendre son langage. C'est là, mais on l'utilise à peine, et c'est un peu triste parce que dans Bienvenue chez les Ch'tis, l'histoire de Philippe, là, qui était joué par Kad Merad, ben, c'est le point central. Sa femme déprimée, sa relation avec elle et la raison de tout ce qui se passe dans le film. Les Ch'tis sont l'environnement qui vont entourer le personnage, mais ici, c'est le contraire. Il n'y a comme aucun personnage d'important. On mise tout sur le clash entre les Ch'tis et les Ch'tis du milieu rural qui mettent du gaz sur leurs légumes et aucune substance pour les personnages.
Du gaz sur leurs légumes?
Littéralement. Donc, on tombe dans une espèce d'absurdité, là, comme je te dis, du premier degré. Là. C'est un peu particulier. C'est ça, il n'y a aucune substance pour les personnages parce que là, on peut pas s'attacher au personnage, même après avoir passé de nombreuses scènes à nous les présenter. Je vous parlerai pas de Pierre Richard qui joue le père de Valentin, là, on tombe vraiment dans le burlesque, ça a absolument aucun sens. Ça enlève le peu de crédibilité qui restait à ce récit-là, là, le monsieur qui cultive ses légumes puis qui met vraiment du gaz là, dessus parce qu'il trouve que ça goûte meilleur. Il manque juste des jokes de pète pour que ça soit complet. Donc, voici le tableau pour la ch'tite famille. Maintenant, sachez que, malgré tout ce que je viens de vous dire, les autres personnes qui étaient dans la salle riaient sans arrêt durant le film. Donc, si vous avez le rire facile et que vous voulez entendre du monde parler tout croche pendant une heure et demie, allez-y, mais allez-y comme si vous alliez voir un show d'humour ou un sketch d'humour. Ma note pour ce film, 5 sur 10. C'est probablement ma plus basse note depuis très longtemps. Le film,
5 sur 10, c'est quand même...
Ben, le film vaut probablement 6 ou 6.5. on va se dire les vraies choses, mais j'enlève un point pour la déception d'une promesse ratée et pour surtout pour les bandes-annonces qui en disent trop, mais qui nous trompent en même temps. Mmh. Ça, là, il faut arrêter, là. Je commence à être vraiment offusqué de ça. Ça fait 3 fois en 2 mois que ça se produit. Les bandes-annonces, on arrive là-bas.
On a pas eu la même année 2017 au niveau des bandes-annonces, toi puis moi, apparemment, parce qu'il y a tout plein de films américains qui ont eu des bandes-annonces hyper mensongères. Ah, oui. Qu'on pense à Batman v Superman, qu'on pense à Suicide Squad, qu'on pense à... c'était quoi l'autre? Il y en a eu une couple, là, faites-en pas. Ben, You Were Never Really There, que je viens juste de voir.
Ben oui, c'est ça que tu dis. Non, mais je trouve pas ça correct.
Mais pense à la bande-annonce du film Jusqu'à la garde, qu'on a vu ensemble la semaine dernière.
Ça, c'était bien.
La bande-annonce est située dans les 5 premières minutes du film, mais c'est absolument tout. Et ça, c'est excellent. Ça sert le film.
Ça sert totalement le film, exactement. Ça prépare le film. Bon, OK, je vais finir mon affaire. Donc, je vais juste rajouter une dernière chose à propos du film. Il y a, dans le film, 2 ou 3 scènes, wow. Donc, c'est important de le dire, c'est des scènes qui sont pas drôles. C'est des moments de prise de conscience du personnage où on comprend au deuxième degré qui est vraiment le personnage de Valentin, c'est quoi ses émotions. Je pense entre autres à la scène de signature après qu'il ait eu un gros flashback. Je vais rester vague pour pas divulgâcher, là. Mais c'est là que j'ai eu les plus belles émotions du film. Je pense que honnêtement, Danny Boone est un grand talent pour mettre en scène l'émotion, mais qu'il veut pas trop en mettre dans ses films. Je pense qu'il devrait peut-être changer de style parce que les 3 meilleures scènes du film sont les 3 plus tristes. Donc voilà, c'était... La petite famille.
Cette semaine, on a décidé de faire comme à l'habitude quand il y a un film québécois qu'on n'a pas envie d'aller voir personne assez fort pour le critiquer.
Oui.
On a fait une critique commune d'un film qui s'appelle Origami, réalisé par Patrick Demers. C'est son deuxième long métrage. Le premier, c'était Jaloux, sorti en 2011. Ça met en vedette François Arnaud, Norma D'Amour, Milton Tanaka et Alexa-Jeanne Dubé. Après avoir vécu un traumatisme suite à un événement tragique, David, un conservateur d'œuvres d'art, découvre qu'il a la faculté à se mouvoir sur sa propre ligne du temps. Avec l'aide d'un scientifique japonais, il tâchera de comprendre pourquoi il a développé cette étrange aptitude psychique et ce que celle-ci peut lui apporter dans sa vie. Bien que sceptique, son père l'épaulera et tentera de l'aider à parvenir à ses fins. David doit revenir à un moment bien précis, un moment où tout a basculé et qui a changé drastiquement le cours de son existence. Pour se mettre dans l'ambiance, on va aller écouter la bande-annonce.
La flèche du temps. Vous savez ce que c'est? Nous percevons toujours le temps comme une ligne droite. Mais en réalité, le temps est souple comme une feuille.
Je ne sais pas de quoi vous parlez.
Monsieur David, vous avez les pouvoirs de plier le temps et changer les événements.
Bonjour, David.
Vous pouvez me parler de la ligne du temps? C'est difficile à expliquer. Le temps, c'est relatif.
J'ai besoin que tu me croies.
Fouillez votre mémoire, Monsieur David.
Ma fille.
Florence! Florence!
J'avais pas allumé que la bande-annonce était si dramatique que ça.
Moi non plus.
Non, mais en fait, à l'époque, on la regarde. Quand on l'entend, ça sonne plus dramatique que quand on le voit. Parce que les images qui étayent les mots sont pas si épeurants.
Bon, avant de commencer trop loin, Jim?
Oui.
Silence. Mais non, qu'est-ce que t'as pensé de ce film-là?
C'est très dur, en fait, parce que là, si on veut pas divulgâcher ce film-là, on peut pas trop en faire l'analyse. Et je pense que dans ce film-là, c'est l'analyse du film qui est vraiment intéressante. Au niveau de la critique... comme je disais en fait à Jim hier, au niveau juste du film, du côté cinématographique, il y a plusieurs choses qui m'ont dérangée, sauf que pour moi, à un moment donné, l'émotion est venue me chercher tellement fort que J'étais plus dans l'analyse d'un film, je pouvais plus être dans la critique du film, j'étais purement dans l'immersion et dans le côté de l'émotion que ce film-là me faisait vivre. Donc c'est sûr que si on me demande un niveau cinématographique, est-ce que t'as aimé ça? Je vais dire, bon, il y a plusieurs choses qui m'ont dérangée, sauf que ce qui est important à la fin, c'est qu'à un moment donné, quand l'émotion m'a pris, j'étais 100% dans le film et j'ai beaucoup aimé la qualité émotionnelle de ce film-là, le côté immersif, ce que ça peut faire vivre. Mais pour ça, je pense qu'il faut faire abstraction de certains éléments plus cinématographiques, plus scénaristiques, qui manquent un peu de sens dans tout ça, là.
Il y a beaucoup de choses qui marchent pas au niveau scénaristique.
Oui, mais l'affaire, c'est que t'as pas réussi à embarquer dans le côté de l'émotion. Ben l'émotion n'est pas venue te chercher, l'émotion est venue me chercher. Donc de ce côté-là, beaucoup apprécié le film.
Mais on va se dire les vraies choses, là. Quand je suis sorti hier, j'étais outré, hein, disons-le. Oui. J'étais absolument en colère contre ce film-là, contre le réalisateur, contre l'équipe de production, contre... même le cinéma d'avoir passé ce film-là.
En fait, Jim était en train de menacer de descendre à Montréal pour aller donner une lettre vraiment fortement en colère à la maison de production.
Je pense que c'est le premier film qui te fâche autant depuis le début de l'année.
Oui, absolument. Et c'est probablement à vie même. Mais je dois admettre que j'ai décanté depuis.
Oh!
Je vais être honnête. Les
sédiments sont ramassés au fond.
En fait, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il y a une partie de ce film-là qui s'apprécie après le film. Et je vais donc le faire, l'expliquer. Mais pour bien comprendre cette hargne, il faut quand même que j'exprime qu'il y a des affaires là-dedans qui n'ont pas de maudit bon sens. Ce film-là, à la base, disons cinématographiquement parlant...
Il est très beau.
Il est beau. Je suis d'accord avec toi. Visuellement,
au niveau de la direction photo, est extraordinaire.
C'est très correct. J'ai rien à dire là-dessus. Mais le reste... c'est pas écoutable. Comme on va se dire les vraies choses, ça n'a pas de bon sens. C'est aussi mauvais en termes d'acteur qu'en termes de jeu, qu'en termes d'histoire, qu'en termes de...
Il y a un seul acteur qui est vraiment faible. Le reste est vraiment excellent.
Ben déjà, on va se dire les vraies choses, l'acteur principal n'est pas extraordinaire.
What? L'acteur principal est délicieux.
Quand il ne parle pas, ça va.
Tout est dans son mouvement, c'est yeux, ça. Tout est dans sa
Rien n'est dans sa dialogue.
Oui, mais... il est supposé être... Bon, vas-y, Jim.
En tout cas, c'est mon opinion. Je trouve que c'est absolument pas crédible. J'ai l'impression que ce film-là a été réalisé par un adolescent. Les clichés se multiplient, les réponses faciles. Le film, je l'ai trouvé décousu et interminable à commencer. Des scènes contemplatives vraiment ordinaires au début. Même si la photographie est très, très belle, des fois, on dirait que les plans n'apportent absolument rien au récit. Je pense entre autres au début du film à une espèce de travelling dans le stationnement qui n'a aucune utilité à ce moment-là. Je ne dis pas qu'il n'y en aurait pas eu un plus tard, mais
aussi
à ce moment-là,
payer non plus.
Oui, on dirait que c'est quelqu'un qui fait son premier film. Là. J'ai l'impression que c'est un film amateur. Cela dit, on sent bien le drame dans les personnages. Comme ça, je dois l'admettre, on a réussi quand même à faire sentir l'espèce de lourdeur émotionnelle des personnages. Et tantôt, j'ai dit, c'est vraiment le genre de film qui continue après le film. Mm-hmm. Donc, c'est le côté positif, je veux dire, du film. C'est qu'effectivement, quand je suis sorti de là, j'ai trouvé que ce film-là était pourri. J'avais le goût de partir après 20 minutes. Mais après le film...
On l'a forcé à écouter au complet.
Après le film, j'ai décanté un peu. Et bizarrement, vous savez, quand on regarde quelque chose qui est illuminé, là, n'importe quoi, durant longtemps sans fermer les yeux,
oui.
Puis qu'on ferme les yeux, on voit comme l'espèce d'inverse, on voit l'espèce
la contre-image.
Ben, j'ai l'impression que ce film-là, quand j'ai fermé les yeux, après, donc quelques heures après le film, ce qui restait avait été diminué de ces éléments désagréables-là que j'avais vus, et ce qui restait était un moule, une charge émotionnelle, un récit profond, du personnage. J'ai ramassé là tout ce que j'avais pas ramassé durant le film m'est arrivé après le film. Donc là, le pont s'est fait entre les éléments totalement décousus au moment de le regarder, mais le fait de les mettre avec un peu de perspective et d'oublier un peu ce qui lie les choses ont fait que j'ai fait les liens moi-même dans ma tête, puis ça m'a donné une version peut-être du film un peu différente, mais qui, elle, est très très lourde, très porteuse, et j'y pense encore aujourd'hui. Donc ça veut dire que clairement, ce film-là...
fonctionne à certains niveaux.
À certains niveaux, par contre, Mais ça veut dire qu'il fonctionne au troisième degré, ce qui est quand même une bonne chose. C'est les deux premiers qui fonctionnent un peu moins.
C'est ça. Moi, oui. C'est un peu ça. Je tout le monde le sait à ce point-ci, nos auditeurs auditrices. J'aime les films qui te traînent dans la boîte et te laissent sur le bord de la route. À la fin, je continue de professer mon amour infini pour le problème d'infiltration. Ce film-là donne l'impression d'une volonté de se rendre là. C'est-à-dire que je comprends exactement ce que tu dis quand c'est un film qui te force à penser après ça. Mm-hmm. J'ai effectivement, on était voir tard le soir, quand je suis sorti, j'ai été me coucher en pensant à toute l'idée du deuil ou toute l'idée des émotions, de comment gérer une situation dramatique, de comment... Est-ce que des fois, c'est vrai que dans la vie, on aimerait donc revenir dans le passé? Parce que c'est un peu ça, l'exploration de ce film-là, c'est l'exploration du regret énormément. C'est de comment est-ce qu'on est capable de passer au travers ça. Donc, ce film-là est une volonté de se rendre là. Ce film-là se rend presque. C'est-à-dire que, en fait, il se rend malgré ses défauts. Mm-hmm. En sens que, moi aussi, je suis sorti de là, il y a des défauts. Là, je veux dire, le jeu de certains acteurs, Hamilton Tanaka, je suis déçu dans ce film-là. C'est pas bon. Mm-hmm. Normand Damour est sous-utilisé ou à tout le moins utilisé un peu tout croche. Mais j'y ai repensé toute la nuit, mais je suis sorti de là, j'étais hautement émotif, mais je suis sorti de là puis j'y ai cru. Par contre, effectivement, acteur questionnable, je refuse de ce que Jim dit. Là, je pense que François Arnault dans le rôle de David est extraordinaire. Je pense que son jeu, justement, non-verbal est sans pareil. La direction photo était excellente. L'histoire laissait parfois désirer. Il y avait des relents. C'est pas clair si c'était un hommage, une copie ou juste un pastiche mal fait de l'effet papillon. Ouais. Il y avait certains aspects d'autres films que je vais pas nommer parce que ça va créer des problèmes après ça de divulgachage.
Il y a des ressemblances aussi avec la série Plan B jusqu'à un certain point.
Oui. Moi, je sentais du David Lynch aussi un peu derrière ça. Il y avait une volonté de faire quelque chose. Je pense qu'on s'est rendu malgré les défauts techniques de la chose. Moi, je pense pas que c'est le meilleur film que j'ai vu cette année. Je pense que c'est un... Moi, je donne un solide 7. Par contre, j'ai officiellement mis Patrick Demers à la liste de mes réalisateurs à surveiller. Je vais très probablement aller voir son prochain film au cinéma dès qu'il va sortir, parce que je vais être très curieux de voir ce que c'est.
Je te laisse.
À la limite, je sentais même un certain relent de Arrival, quand tout l'aspect du temps, tout l'aspect de... Puis aussi, je dois admettre une certaine fantaisie de jeune homme d'apprécier les mythes japonais. Donc, de lier beaucoup de cette histoire-là à un mythe japonais, j'ai beaucoup aimé ça.
Mais tu trouvais que ça marchait, toi? Moi, je trouvais que c'était ça collait pas. Probablement, le monsieur japonais, on s'entend que c'est pas fameux comme acteur, là.
Non, c'est ça.
À la base. Puis, je trouvais que on rentrait pas là-dedans. Il y aurait eu une matière à jouer avec ça, le côté, justement... Tout ce qu'on faisait, c'est nous montrer un parchemin, puis tu sais... On aurait pu utiliser le côté japonais bien plus profondément.
Mais c'est ça que je dis. Ma fantaisie de jeune homme fait que j'ai beaucoup aimé. Mais tu as effectivement raison. Là, ça aurait dû, en fait, être beaucoup plus imbriqué avec le voyage, avec sa fascination pour l'art japonais. Parce qu'on sait que la revue de presse le décrit comme un conservateur, mais en réalité, c'est un restaurateur d'art. Puis on le voit, entre autres, travailler beaucoup sur de l'art japonais. Ça aurait dû soit être vraiment plus important, soit vraiment est-ce qu'on tourne autour d'un mythe japonais, qu'on tourne autour vraiment d'une idée, qu'on baigne dans une culture japonaise plus grande. Peut-être qu'il y avait un inconfort à le faire, puisque Patrick Demers reste très québécois. Peut-être que ou on aurait juste dû ne pas le faire.
Ben c'est ça, moi c'est ce que je pense. Soit on le fait pas, soit on le fait à 100%.
Parce
mais là,
on passe vraiment un long moment sur son Christie de sac au début du film, puis pourtant il n'y a pas de...
C'est ça.
Mais c'est un film qui te demande de réfléchir, parce que toute l'idée de voyage dans le temps fait que certaines scènes qui semblent pas importantes la première fois que tu les vois peuvent donner plus d'importance à la fin. Moi, je pense qu'au contraire, ce que vous décrivez comme étant la scène du début, qui est un long trapping qui sert à rien dans le stationnement. Au contraire, je trouve qu'à la fin du film, ça devient une scène très puissante.
Ouais.
Fait que, moi, j'ai aimé. Moi, je 7 sur 10 même, 7.5, j'étais vraiment généreux. Mettons, si le popcorn est excellent, mais c'est ça. C'est qu'il faut y aller en sachant que ce ne sera pas parfait au niveau scénaristique, qu'il y a vraiment à revoir dans ce film-là. Mais malgré ça, les trois, on en ressort après avoir été touchés par ce film-là. Donc, il y a quelque chose là quand même. Ouais. C'est comme ça que je justifie là, cette...
Eh bien.
Jim, qu'est-ce que tu donnais comme note?
Quand je suis sorti de là, je comptais donner un 2 ou 3. Donc, ça donne une idée un peu de mon...
Oui, Jim se sentait comme moi, je me sentais à la sortie de Trip à 3.
Ouais, oui, c'est ça. Je vais rectifier et donner 5. Qui est quand même peu.
Ça passe dans le monde anglophone.
Ça passe dans le monde. Je ne peux pas donner plus que La Ch'tite Famille parce que La Ch'tite Famille était mieux construit malgré tout, à mon avis, à moi. Respectait plus
le cinéma. Mais est-ce que tu as eu plus d'émotions à La Ch'tite Famille?
J'ai eu moins d'émotions à La Ch'tite Famille, évidemment. C'est pour ça que, bon, ça compense. Cela dit, c'est ça. C'est un film qui, à mon avis, va se vivre après le film. Donc, et pas durant. Donc, pendant le film, pour moi, c'était frustrant. Comme tu dis, il y a des scènes, on voit pas leur intérêt, mais à la fin, ça prend son sens. Donc, il y a vraiment un côté de maturation. Et je refais le fil des événements dans ma tête de ce film-là de différentes manières. Et je pense que ce film-là entre dans l'état de conscience d'une personne en deuil, oui. Entre dans le
tout ce qui est... Ah, moi, c'est le regret, énormément.
Le regret, la lourdeur de pas vouloir, à la limite, que les choses soient ce qu'elles sont, de tenter de les changer. Et toute cette espèce de désespoir-là, on le comprend par ces scènes-là qui sont pas nécessairement intéressantes à voir, mais qui, au bout du compte, s'expliquent par ce délire-là un peu.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'au bout du compte, ce qui n'a pas de sens en le voyant peut prendre son sens. Mm-hmm. Donc, c'est un film... Je peux pas donner plus que 5 parce que, malheureusement, pour moi, ça vaut pas plus que 5, mais c'est mieux que 2, hein?
Oui.
Disons-le.
Mélina, t'as note?
Donc, j'y vais avec un 6 sur 10, ça passe, mais...
En tout cas, ça laisse pas indifférent. Comme ça laisse ça, pas c'est indifférent. Sûr et certain.
Ça fait beaucoup de points. On s'en va pas de là indemne.
Mais je commence à croire qu'il y a des choses au niveau scénaristique qu'on n'a pas aimées, mais qui sont peut-être justifiées par une volonté d'illustrer le concept du temps qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire que c'est pas un récit qui est linéaire non plus. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un film qui, à une deuxième écoute, peut-être s'apprécier encore plus, mais il y a effectivement des éléments qui faisaient en sorte que ça pouvait faire décrocher du côté émotionnel assez facilement. Là. Donc voilà.
Excellent. Merci beaucoup, Mélina. C'est ça pour l'épisode cette semaine, mesdames, messieurs. Ce fut un plaisir de vous avoir en notre compagnie pour ce merveilleux épisode de Cinébrunch. Je vous souhaite une extraordinaire semaine et la chance de voir tous les films que vous voulez voir. C'est donc moi, Louis Laramé, qui vous souhaite une bonne semaine.
Bonne semaine!
Bonne semaine!